Et c'est un privilège, en tout cas, de pouvoir être là ce matin. Vous savez, ces derniers temps, ces dernières années, non, pardon, ces derniers mois, je veux dire, l'Église de Jésus-Christ a vraiment été malmenée. Et je ne veux pas être un prophète de mauvais augure ce matin, mais j'aimerais simplement vous dire que ce n'est que le début. Et de tout temps, l'Église de Jésus-Christ a été malmenée. Elle a de tout temps eu des ennemis extérieurs et des ennemis intérieurs. Elle a eu des ennemis intérieurs, notamment, d'ailleurs, quand vous lisez quand vous lisez les épîtres de Paul, vous voyez que Paul doit constamment corriger des fausses doctrines, constamment corriger des fausses compréhensions de l'Évangile. Constamment. Il avertit les anciens de l'église d'Éphèse, des loups vont s'infiltrer parmi vous, et ça n'a jamais changé depuis. Et ça, ce sont des ennemis intérieurs, mais il y a aussi des ennemis extérieurs. Et je pense que la pandémie qui nous est tombée dessus, elle a agi comme un de ces ennemis extérieurs. On n'est pas les seuls à avoir trempé là-dedans, le monde tout entier a été plongé là-dedans. Mais il y a aussi d'autres ennemis, et je ne sais pas si vous réalisez, mais depuis quelques mois, il y a une intensification d'une tentative d'essayer de faire passer les chrétiens évangéliques pour des extrémistes. Je ne sais pas si vous réalisez à quel point on a dû faire face à des propos même malheureux de la part de nos dirigeants qui tentaient simplement de décrédibiliser, pardon, l'Église de Jésus-Christ. En fait, de tout temps, l'Église a subi des attaques, qu'elles soient intérieures ou extérieures. Et merci beaucoup. Et en fait, à travers tout ce qu'on vit là, le grand risque, c'est que beaucoup de chrétiens risquent de perdre le contact avec la réalité de ce qu'est l'Église vraiment. Et ce matin, je voudrais vous encourager à laisser le Saint-Esprit vous convaincre comme si c'était la première fois que vous entendiez parler de l'Église, de manière à ce que vous puissiez saisir que l'Église n'est pas une option dans notre vie chrétienne, mais elle est un élément central de notre vie. Et on va tenter de le voir aujourd'hui. Et pour ça, on va ouvrir l'épître de Paul aux Colossiens, parce que Paul, quand il écrit aux Colossiens, c'est une église qu'il n'a pas lui-même implantée, on pense que c'est peut-être Epaphras qu'il a implantée. Il a le souci de cette église parce que justement cette église subit des attaques intérieures et des attaques extérieures dans sa vie. Et donc Paul va écrire cette épître aux Colossiens, et laissez-moi vous rappeler simplement le but pour lequel Paul a écrit cette épître aux Colossiens. C'est tout simplement parce que les Colossiens, qui étaient des jeunes convertis, étaient aujourd'hui confrontés à une hérésie dont on ne connaît pas le nom. On en connaît quelques caractéristiques, puisque Paul les combat. Et la particularité de cette hérésie, c'est qu'elle avait pour but de couper l'Église de la centralité de Jésus. Elle avait pour but de couper littéralement l'Église de sa tête. Et elle avait pour but de couper la suprématie de Jésus, à la fois sur le monde, et à la fois sur la création, pardon, et à la fois sur l'Église. Et Paul, pour contrecarrer cette hérésie, eh bien, il va faire une chose extraordinaire, il va prêcher l'Évangile. C'est dingue quand même qu'il faille prêcher l'Évangile à l'Église. On croit souvent qu'il faut prêcher l'Évangile aux inconvertis. Il y a des évangélistes dans cette salle, je le sais, parce que j'en connais quelques-uns, et vous brûlez, j'en croise parfois quand je me promène au parc de Waterloo. Petit clin d'œil aux gens qui vont se reconnaître. Et c'est super. Et on croit souvent que l'Évangile, c'est pour être prêché à l'extérieur. Savez-vous que Paul a prêché l'Évangile autant à l'extérieur qu'il l'a prêché à l'intérieur de l'Église? Vous savez pourquoi? Parce que les non-chrétiens, le besoin dont ils ont le plus besoin, c'est de l'Évangile. Et vous avez le plus besoin, en tant que chrétien, de l'Évangile. Et c'est ce que Paul va faire. Il va présenter l'Évangile. Il va présenter véritablement ce qu'est l'Évangile. Il va présenter véritablement qui est Jésus-Christ. Et il va présenter véritablement qui et quelle est la nature véritable de l'Église et toutes ses implications. Alors vous savez qu'aujourd'hui encore, on est confronté à des falsifications de l'Évangile. Et la raison est toute simple. Nous vivons dans une société aujourd'hui qui fait la promotion de certaines valeurs qui sont totalement opposées à l'Évangile. Par exemple, cette société fait la promotion de l'individualisation. Ce qui compte, c'est ce que je pense. C'est ma destinée, c'est ma vie, c'est moi qui détermine ce qui est bon pour moi. Ça, c'est l'essence même de la société dans laquelle on vit. Cette société, eh bien, elle nous pousse à aussi développer de plus en plus un esprit d'indépendance avec cela. Mais aussi un esprit de consommation, un esprit aussi de réalisation de soi. Et je ne sais pas si vous réalisez, mais de plus en plus, un esprit de méfiance à l'égard de tout ce qui est autorité. Et que vous le vouliez ou non, vous et moi, nous sommes confrontés avec cette réalité et petit à petit, des filtres se construisent dans nos pensées. Et même les chrétiens aujourd'hui, je peux le dire parce que je visite beaucoup d'églises, enfin moins cette année, hein, mais j'en ai visité pas mal de par les responsabilités que j'ai, et partout où je vois, eh bien, je vois que ces filtres se trouvent dans la pensée de beaucoup de chrétiens aujourd'hui en Occident. Et c'est vraiment, à mon sens, une des hérésies les plus pernicieuses qui soit, c'est de réduire l'Évangile à simplement une réalité individuelle. Quand vous lisez le Nouveau Testament ou les Écritures, la plupart des chrétiens le lisent comme un livre qui est écrit pour eux individuellement, dans le but de s'épanouir, dans le but de développer leur destinée, leur ministère, leur. Mais laissez-moi vous convaincre d'une chose, vous ne trouverez jamais le pronom « je » ou le pronom « tu » dans les Écritures. Vous irez toujours le pronom « vous » ou le pronom « nous ». La réalité de l'Évangile, c'est qu'elle n'est pas avant tout une réalité individuelle, mais avant tout une réalité communautaire. Et c'est ce que je vais essayer de vous convaincre ce matin en essayant de vous démontrer, à travers cette épître de Paul qui est puissante pour nous convaincre, que premièrement l'Église, c'est la conséquence directe de l'Évangile, que l'Église, c'est le lieu où Dieu veut que l'Évangile soit vécu, et enfin, que l'Église, c'est l'indicateur de là où mène l'Évangile. Alors, on va voir le premier point, et pour ça, on va ouvrir Colossiens, chapitre 2, verset 16. Paul écrit ceci. « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou à propos d'une fête, d'un nouveau mois ou du sabbat. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Que personne, par son goût d'une fausse humilité ou du culte des anges, ne vous prive de la victoire, plongé dans ses visions. Un tel homme est sans raison enflé d'orgueil sous l'effet de ses pensées toutes humaines, et il ne s'attache pas à celui qui est la tête, et c'est pourtant d'elle que tout le corps, bien nourri et solidement assemblé par ses articulations et ses liens, tire sa croissance. » Paul présente ici l'Évangile d'une manière extraordinaire. Il dit que l'Église est la conséquence directe de l'Évangile. En fait, l'Évangile de Jésus-Christ n'a pas fait naître toute une série d'individus parsemés un peu partout et déconnectés les uns des autres. Ce n'est pas ce que dit Paul. Paul dit que Jésus, quand il est venu sur la terre, en tant que tête, il a cherché à bâtir un corps. D'ailleurs, le mot « ecclésia », c'est le mot qu'on utilise pour parler d'église. Moi, j'ai vu sur votre site, j'ai regardé votre site internet ce matin. Je voulais avoir l'adresse déjà. Mais je voulais aussi jeter un petit œil pour voir ce qui se passait chez vous. Et vous savez, le mot « église », « ecclésia » en grec, ce n'est pas du tout un mot religieux à la base. C'est un mot qui était utilisé couramment dans le monde grec pour parler d'un rassemblement ou d'une assemblée de citoyens. C'était très démocratique. Hein. Il fallait qu'on décide ensemble de ce qu'on allait faire ou ne pas faire, qui on allait mettre dehors de la ville, etc. Ça s'appelait l'ostracisme et toutes ces choses-là. Et donc, on rassemblait l'ecclésia. Et donc, l'étymologie même du grec « ekkaleo hein, », qui a donné le mot « ecclésia », ça veut dire « ceux qui sont appelés hors d'eux ». Et quand on prend la définition de l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui, on doit dire « ce sont ceux qui ont été appelés hors du monde pour former l'Assemblée de Dieu ». Ça, c'est l'Église. Et donc, on doit comprendre pour ça l'importance de la notion du rassemblement dans l'Église. Dans les Écritures, pardon. Et laissez-moi vous convaincre au travers de deux histoires que je vais présenter comme un espèce de contraste. Vous savez, si vous voulez montrer que le noir est noir, vous mettez du blanc. Ça va ? Et le contraire est vrai aussi. Et laissez-moi vous raconter deux histoires dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament, dans ce que j'appelle la Première Alliance. Et la première de ces histoires, elle se trouve dans Genèse 11. Vous vous souvenez, dans Genèse 11, il est raconté l'histoire de Babel. Alors, la Bible nous dit que le peuple était une seule langue. Et puis, ils ont décidé d'aller dans la plaine de Shinéar. Et là, ils ont décidé de construire une ville, de construire une tour dont le but était d'atteindre le ciel. En fait, quand vous regardez bien le sens de ce que ça voulait dire, il voulait construire quelque chose tous ensemble, et ça, Dieu, il aime vraiment quand on construit les choses ensemble. La preuve, c'est qu'il a créé l'Église. Mais la difficulté ici, et la particularité, c'était que ces hommes voulaient construire quelque chose ensemble, mais sans Dieu. Ils voulaient se couper de Dieu. Ils voulaient devenir Dieu. Ils voulaient avoir leur propre destinée en main. Ils voulaient absolument que tout cela appartienne à eux-mêmes. Et vous savez ce qui s'est passé ? Que lorsque nous nous coupons de la tête, il y a un jugement qui vient. Lorsque nous nous coupons de la tête, il se produit quelque chose. Ils ont tous été dispersés. La parole de Dieu nous dit que Dieu a confondu leur langage et l'unité qu'ils voulaient construire sans Dieu a littéralement explosé. Et j'aimerais souligner quelque chose ici, c'est que la dispersion et la séparation, c'est toujours le fruit du péché. Toujours. Toutes les séparations sont le fruit d'un péché. C'est le fruit d'une vie qui est menée par orgueil, dans le but tout simplement de vivre pour soi-même, par soi-même et sans Dieu. Et lorsque nous sommes coupés de la tête, nous sommes coupés les uns des autres. Il n'y a plus d'unité. Ça, c'est ma première histoire. Laissez-moi vous raconter ma deuxième histoire. C'est celle de l'exil du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël s'était tellement révolté contre Dieu, ils ont dit on va être comme les autres nations, on va se donner un roi, on va vivre avec nous-mêmes, avec nos propres lois, on va rejeter Dieu. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et que s'est-il passé ? Dieu les avait avertis que le jour où ils feraient ça, il les disperserait en exil. Il dirait non, vous allez être dispersés loin de ce pays dans lequel vous étiez une entité. Qu'est-ce que nous dit encore cette histoire ? Que la séparation et la dispersion est toujours le fruit du péché. Et que lorsque nous sommes coupés de la tête, nous sommes coupés les uns des autres. Et si vous regardez Babel, Babylone, puisqu'ils ont été dispersés à Babylone, le peuple de Juda, eh bien ce sont les réalités de cette société aujourd'hui qui est une société qui veut se construire mais sans Dieu. Aujourd'hui, que vous le vouliez ou non, Babylone vous encercle, tentant d'essayer de vous disperser, de nous disperser. Et vous savez, quand vous réalisez ça, vous réalisez que c'est la répétition constante de ce qui s'est produit en Éden lorsque Adam et Ève ont voulu se couper de Dieu. Eh bien, ils se sont coupés l'un de l'autre. Et ça a fait naître une humanité qui est coupée les uns des autres. C'est beaucoup plus difficile de construire une amitié que de se séparer, pas vrai ? Il faut des années pour construire une amitié. Il faut une minute pour la détruire. Alors Paul, il est confronté à cette hérésie-là. Et pour contrecarrer cette hérésie qui cherche à couper l'Église de sa tête, Paul sait très bien ce qui s'est passé avec Babel et avec Babylone. Et il sait très bien que si les Colossiens se coupent de la tête, ils finiront par se couper les uns des autres. Alors qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il va prêcher l'Évangile. Et regardez ce qu'il va dire. Alors, je crois que c'est celui-là, n'est-ce pas ? Si jamais je me loupe. Non, c'est celui-là. Voilà, c'est super. Colossiens chapitre 1, quelques versets auparavant, Paul a écrit ceci. « Car Dieu a voulu par Christ réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. » S'il vous plaît, on lit tellement vite les versets. On va ralentir, d'accord ?« Car Dieu a voulu, c'est sa volonté, par Christ, réconcilier tout avec lui-même. » Vous savez, si l'ADN du diable, c'est de nous séparer les uns des autres, l'ADN de Jésus, c'est de nous rassembler les uns les autres. Et si le fruit du péché, c'est la dispersion et la séparation, le fruit de l'Évangile, c'est tout l'opposé, c'est le rassemblement. C'est un Dieu qui décide par la croix de tout rassembler ce qui était dispersé à cause du péché et de le réunir en unité, en une entité qui s'appelle le corps de Christ. C'est ça son désir. D'ailleurs, si on regarde, Paul a écrit aussi en Éphésiens, un peu plus dans une autre épître, il a écrit ceci. « Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, séparés, dispersés, vous avez été rapprochés, rassemblés par le sang de Jésus, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, on parle là des juifs et des non-juifs, qui a renversé le mur de séparation. L'évangile est la seule chose dans le monde qui peut réellement rassembler ce que le péché a dispersé. Alors si ton mariage va pas bien, ce dont tu as besoin, c'est de l'évangile. C'est pas seulement d'une bonne relation d'aide. J'aime bien les relations d'aide, ça aide, d'où son nom. Mais ce dont tu as besoin, c'est de l'évangile. Tu as besoin de l'évangile. Eh bien, le fruit de l'évangile, dit Paul, c'est de tout rassembler sous l'autorité du corps de Christ. Voilà pourquoi la conséquence de l'évangile, c'est le corps de Christ. Vous n'avez pas été sauvé individuellement en disant « Chacun doit bien lire sa Bible et prier dans son coin de temps en temps. Vous vous connectez sur internet www.betsalel.com. » Vous avez été sauvé pour être joint à un corps qui est le corps de Christ. C'est ça que a produit l'évangile. D'ailleurs, c'est ce que Paul dira en 1 Corinthiens 12, 13, lorsqu'il dira « Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit français, soit belge, soit esclave, soit libre. Nous avons tous été abreuvés d'un seul corps. » C'est extraordinaire l'évangile. Vous savez, quand Dieu il a inventé l'Église, il n'a pas dit « Mince, il faut que je trouve un moyen d'occuper tous les chrétiens le dimanche matin. Qu'est-ce que je vais faire ?»« Ah bah tiens, je vais inventer le culte. » C'est sympa quoi, c'est toujours mieux que d'aller boire un verre au bistrot du coin, non ? Non, Dieu il n'a pas fait ça. Il a produit quelque chose, il a produit quelque chose qui dépasse même le culte du dimanche. Vous et moi, le lundi, nous sommes l'Église. Le mardi, nous sommes l'Église. Le mercredi, nous sommes l'Église. Nous sommes l'Église tous les jours, même quand on ne dort pas dans le même lit. J'imagine que vous ne dormez pas tous dans le même lit. Nous formons un corps, dit Paul. Et vous savez, le monde occidental aujourd'hui, il est influencé, il influence l'Église, et l'Église occidentale, elle a réduit l'Évangile à la réalité individuelle. Je vais vous dire quelque chose. Quand je regarde des messages sur Internet, et quand je regarde les messages que je donnais il y a 5 ans, 10 ans en arrière, je vois quoi ? Comment réussir ta destinée ? Comment trouver tes dons ? Comment toi, 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 moi, moi, moi ? Permettez-moi de vous dire que ce n'est pas l'évangile que Paul prêchait. Il n'est pas question de toi et de moi. Il est question de Christ. Il est question de Jésus-Christ. Et Paul, c'est ce qu'il faisait. Il ne prêchait que cela. D'ailleurs, laissez-moi vous prouver que ce que je vous dis, c'est vrai avec un dernier verset. Parce que j'aime bien convaincre avec la parole. Lorsque Pierre a prêché pour la première fois Christ ressuscité et crucifié, que s'est-il passé en Actes chapitre 2 ? Tout de suite après, regardez, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église, lui-même, pas nous. Et regardez bien ce que Jésus faisait. Il ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Aujourd'hui, quand on prêche l'Évangile, on dit aux gens, vas-y, donne ta vie à Jésus, lis ta Bible, il est sauvé. Mais Jésus prend un soin particulier à ce que lorsque quelqu'un est sauvé, il le joint à son corps. L'Église est la conséquence directe de l'Évangile. Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous n'êtes pas juste un individu qui vient essuyer une chaise et frotter une chaise avec vous le dimanche matin. Vous êtes ici parce que Jésus vous a sauvé et que maintenant et pour l'éternité, vous faites partie d'un corps. C'est la raison pour laquelle Dieu le fait. D'ailleurs, laissez-moi vous parler un peu de cette éternité. Avant cela, j'aimerais vous dire une chose. Est-ce que vous avez remarqué à quel point l'ennemi fait tout pour nous séparer ? Il fait tout. c'est un diviseur. L'un de ses noms, c'est le diviseur. Il fait tout pour nous séparer. Et comment il le fait ? Eh bien, il pousse aujourd'hui toutes les personnes. Excusez-moi, je suis vraiment béni de voir. Non, je ne m'excuse pas. Je suis vraiment béni de voir ce matin des gens qui ont la 30 à 45 ans. C'est incroyable. Dans cette église, il y a une proportion impressionnante de jeunes de cette catégorie-là. Non, mais sérieusement. Vous êtes un peu plus âgé que moi parce que moi, ça fait 27 ans que je fête mon 25e anniversaire. J'ai toujours 25 ans, mais ça fait 27 ans que je le fête. Non, plus que ça maintenant. Oh, plus que ça. Voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Mais laissez-moi m'adresser particulièrement à vous. Vous êtes une génération particulièrement en danger. Pourquoi ? Parce que le monde fait une pression sur vous que c'est maintenant qu'il faut avoir les plus belles maisons, les plus belles voitures, les plus beaux ceci, les plus beaux cela, qu'il faut travailler beaucoup pour votre retraite. Moi, j'ai vu mon père travailler toute sa vie pour sa retraite. Il a vécu 3 ans en retraite. Après, il est mort. Excuse-moi, je vais te dire quelque chose. Non, je ne m'excuse pas. Je vais te dire quelque chose. Aujourd'hui, tu peux être certain que le diviseur est en train de pousser cette génération à la suractivité. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on donne comme temps à l'église, pasteur ? Tu ne te rends pas compte de quoi est remplie ma vie ? Est-ce que vous savez de quoi est remplie votre vie va s'arrêter le jour où vous allez arrêter votre vie ? Mais que tout ce que vous aurez négligé va continuer. Je veux juste vous faire réfléchir. Je ne suis pas en train de vous casser votre plan là. Si vous avez une belle maison, bénissez Dieu. Si vous avez un bon métier, bénissez Dieu. Si vous avez une belle maison, même si c'est une Lamborghini, mais bénissez Dieu et invitez votre pasteur le dimanche après-midi à faire un petit tour avec lui. Non, ou même les autres, ou surtout ceux qui n'ont que des Clio 3. Non mais bénissez Dieu. Moi, je ne suis pas en train de vous dire de vendre vos Lamborghini ou vendre vos maisons. Je suis en train de vous dire, mais où vous mettez votre énergie et votre temps ? L'ennemi est bon pour nous disperser. Est-ce que tu as remarqué que quand tu veux prier avec des frères, c'est à ce moment-là que ton enfant tombe malade ? Que quand tu vas à un culte le dimanche matin, mince, c'est ce jour-là que ton mari, il commence à te prendre la tête sur un truc et tu te disputes juste avant. Allô ? Il y a des habitants sur la terre ? C'est au moment où tu décides que tu vas consacrer du temps à l'église, que tu vas dire maintenant je vais m'engager, qu'à ce moment-là tu n'as plus de temps, tu as plein de choses qui t'arrivent, tu as des pètes de voiture, tu as des assurances qui tombent, et puis à ce moment-là tu commences à avoir plein de pensées bizarres dans ta tête, tu commences à rentrer dans une période de tentation comme jamais tu avais eu avant. Non mais réalise 2 secondes, il y en a un qui ne veut pas que le corps soit un. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il te cible. Et il me cible. Réfléchissez un instant à ça. C'est la raison pour laquelle Paul disait, déjà à cette époque-là, n'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Ils avaient déjà pris l'habitude. Hein. Il y a un cirque là dimanche, c'est super, hein. Il y a les Romains qui se battent entre eux, on va aller voir ça plutôt, non ? Bon, ils ne pouvaient pas faire du VTT à l'époque, mais ils allaient là-bas. L'ennemi veut tout faire. L'ADN de Satan, c'est un diviseur. L'ADN de Christ, c'est un rassembleur. Je peux te poser une première question ce matin. C'est quoi ton ADN ? C'est quoi ton ADN à toi ? Et puis, l'Église, ce n'est pas une idée temporaire. Hein. Ce n'est pas un truc, comme j'ai dit, où Dieu va nous occuper jusqu'à la fin de notre vie. L'Église, c'est un projet éternel. Et laissez-moi vous le prouver, parce que quand Jésus parle de son retour, voilà ce qu'il va dire. Alors il enverra les anges, il rassemblera les élus des 4 vents de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Ce que Jésus va faire quand il va revenir, c'est nous rassembler. C'est son cœur, c'est son ADN. On va passer l'éternité ensemble. Amen. Super. Geoffrey, on va passer l'éternité ensemble. Génial. Puis il y en a qui regardent leurs voisins et qui disent « Ah bon ?» On va passer l'éternité ensemble. C'était mon premier point ce matin. L'Église est la conséquence de l'Évangile. Et j'espère que je vous ai convaincu un peu ce matin que être membre de l'Église de Jésus-Christ, faire partie d'une communauté comme Beth Salel, ce n'est pas une option, ce n'est pas une activité de plus dans votre vie. C'est quelque chose pour lequel vous vous entraînez pour l'éternité. Waouh ! Amen ! Super, deuxième point. L'Église est le lieu où se manifeste l'Évangile. Paul dira, si vous êtes morts avec Christ aux principes élémentaires qui régissent le monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous soumettez-vous toutes ces règles ? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Elles ne concernent que des choses destinées à disparaître dès qu'on en fait usage. Il s'agit bien là de commandements et d'enseignements humains. Ils ont en vérité une apparence de sagesse car ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans valeur et ne servent qu'à la satisfaction du corps. Si jamais aujourd'hui on vous coupait les deux bras et les deux jambes, savez-vous que vous vivriez encore ? Bien sûr, je ne vous demande pas de faire l'essai. Mais laissez-moi vous dire une chose. Si on devait couper votre tête, votre beau corps athlétique cesserait de vivre immédiatement. La seule chose qui peut aujourd'hui faire que vous n'allez vraiment pas pouvoir vivre, c'est si on vous coupe votre tête. Pourquoi ? Parce que dans votre tête se trouve tout votre cerveau, votre salle de commande, le QG de votre vie se trouve là. Votre cerveau, moi je suis en train de tenir un micro, c'est pas ma main qui est en train de dire « Tiens, aujourd'hui, sois tranquille et dis, je vais tenir le micro pendant que tu parles. » Non, tout vient de là. Et pendant que vous m'écoutez, votre cerveau est en train de dire quelque chose. Si je coupe votre tête, c'est fini, hein. Vous m'écoutez plus. Vous comprenez à quel point c'est important. Laissez-moi vous dire, toute la vie de votre corps dépend de votre tête. Eh bien, c'est exactement la même chose pour le corps de Christ. Toute la vie du corps dépend de Jésus-Christ. Et une église en bonne santé, une église qui vit, c'est une église connectée en permanence avec Jésus la tête. Ce n'est pas une église qui a fait d'une doctrine sa tête. Aujourd'hui, on voit ça. Ah, le plus important, c'est la puissance de Dieu. Et il y a des églises qui sont centrées sur la puissance de Dieu. J'aime la puissance de Dieu. Ou alors on est centré sur la mission. J'aime la mission de Dieu. Ou on est centré sur, les dîmes. Mais laissez-moi vous dire que partout, dans toutes les églises, si jamais vous vous centrez sur quelque chose davantage que sur Christ, vous êtes sur le point d'entrer dans une hérésie. Pourquoi ? Parce que toutes les hérésies ont commencé avec le fait qu'on voulait couper l'Église de la tête. Pour ça, quand j'entends « tout est centré sur moi », je me dis « oh, qu'est-ce que je suis bien ici ». Dès l'instant où notre compréhension, notre foi ou notre vision de qui est réellement Jésus est faussée, notre vision de l'Évangile va être faussée. Et si notre vision de l'Évangile est faussée, la vision même de la nature du corps va être faussée. Vous savez, les gens qui aujourd'hui ne fréquentent pas des églises volontairement et qui veulent vivre tranquillement leur vie chrétienne eux-mêmes, je peux vous garantir, ils ne savent pas ce qu'est l'Évangile. Je suis choquant ce matin. Je vous aime, hein. Je vous assure que je vous aime. Sinon, je ne serais pas ici ce matin. Et vous savez, quand on a une vision faussée de qui est Jésus, ça va affecter toute notre vie. Dès l'instant où on se coupe de la tête qu'est Christ, eh bien nous réduisons notre vie chrétienne à une suite de règles. Ne prends pas, ne touche pas, ne fais pas. Et quand vous rentrez dans certaines églises, ben vous devez correspondre à des règles. Eh bien si c'est ça c'est parce qu'on s'est coupé de la tête. Parce qu'en réalité, ce n'est pas ce que présente comme évangile. Et Paul, quand il voit ça, Non mais attendez les amis, vous avez déjà lu l'histoire de l'Église depuis 2000 ans. Ben, l'histoire de l'Église, c'est une histoire de séparation. C'est une histoire de istes. Vous avez remarqué ? Vous avez jamais remarqué l'histoire des istes ? Un jour, tout le monde était ensemble, ça s'appelait l'Église. Et un jour, quelqu'un a dit « Ah, mais ça, c'est le plus important dans la vie chrétienne !» Alors, ils ont créé un « ist ». Les baptistes. Et puis, d'autres disent « Non, non, c'est ça qui est le plus important !» Alors, ils ont créé un autre « ist », les pentecôtistes. Ils disent « Non, 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 mais le plus important, c'est les Écritures, c'est ça !» Alors, ils ont créé les « darbistes ». Et puis, d'autres, ils ont commencé à créer les « charismatistes ». Non, tic. Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que si le monde nous appelle les évangélistes au lieu des évangéliques, c'est peut-être pas parce qu'on est encore une fois en train de se détourner de la véritable réalité qu'est Jésus-Christ ? Vous savez, dans le ciel, il n'y aura aucun baptiste, ni pentecôtiste, ni catholique, ni qui que ce soit. Il n'y aura que des disciples de Jésus-Christ. Et ça, c'est l'histoire. On ne fait que quand on se sépare de la tête, on se sépare. Et qu'est-ce que va faire Paul pour combattre cette hérésie? Il va prêcher l'évangile et il va dire, écoutez ceci, je vais vous prêcher ce dont vous avez besoin. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il va présenter Jésus, le Fils de Dieu, l'image du Dieu invisible, celui qui, à cause de l'horreur de notre péché, a été envoyé par le Père afin que nous nous détournions de nos péchés et que nous puissions être réconcilié avec le Père. Il a prêché Christ comme le roi de justice qui vient rétablir la justice dans le cœur d'un homme pécheur. Il a prêché Jésus-Christ, le roi crucifié, qui non seulement nous pardonne de nos péchés, mais a la capacité de nous libérer, de nous délivrer et de nous guérir. Et c'est la raison pour laquelle Paul disait « Je ne cherchais au milieu de vous qu'une seule chose, Christ et Christ crucifié. » Le seul message dont l'Église a besoin, c'est l'Évangile. Il y a un gars comme John Piper, que j'aime beaucoup, qui a dit, vous savez, je prêche un seul message dans ma vie, l'Évangile. Alors je lui ai emboîté le pas. À ESF, ça mange de l'Évangile en ce moment. Mais vous savez, les vies sont changées quand on prêche l'Évangile. Il y a deux choses qui se produisent quand l'Évangile est prêché. Ceux qui ne veulent pas de Jésus s'en vont. Quand j'ai prêché ce message, quelqu'un a quitté l'église chez nous parce qu'il n'a pas voulu changer. L'évangile n'est jamais et ne laisse jamais quelqu'un indifférent. Si vous voulez avoir une église tranquille où vous gagnez du monde sans jamais en perdre, ne prêchez jamais l'évangile. Mais si vous prêchez l'évangile, vous allez avoir des gens que vous aimez, pour qui vous avez donné votre cœur, qui se retourneront contre vous. Non pas parce qu'ils ne vous aiment pas, mais parce qu'ils n'aiment pas Christ. Et selon cet évangile, dit Paul, eh bien Christ a sauvé des hommes de toute nation pour les rassembler en une seule réalité qui s'appelle l'Église, le corps de Christ. Et c'est à travers cette Église qu'il veut manifester l'évangile. Aujourd'hui, Jésus, la tête, elle est cachée au monde, elle est invisible, mais le corps est visible. Donc, où peut-il voir l'évangile, le monde, aujourd'hui? À travers nous, à travers toi et moi, à travers nous ensemble. Jésus a dit, c'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres que le monde verra que vous êtes mes disciples. Alors laissez-moi vous parler d'une chose. Tout à l'heure, nous avons cité 1 Colossiens chapitre 1. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu, ah là, ça j'aime beaucoup, que toute plénitude habite en lui. Vous savez ce que Paul est en train de dire? Tout ce dont tu as besoin, c'est Jésus. Tout est en lui. Ça veut dire quoi? La plénitude, la perfection de Dieu. Toute la perfection de Dieu est en Jésus. En Jésus se trouve l'amour de Dieu. En Jésus se trouve la justice de Dieu. En Jésus se trouve le remède contre la jalousie. En Jésus se trouve le remède contre la solitude. En Jésus se trouve la paix, celui qui est saint, celui qui pourvoit. Celui qui guérit, celui qui délivre, tout est en lui. Et c'est à ce point que Jésus, quand il a regardé ses disciples, il a dit « Vous m'avez vu, vous avez vu le Père. » Tout est en lui. Tout est en lui. Tout est en lui. La sainteté, la gloire, l'humilité, la sagesse, la pureté, l'amour, la paix, la joie, la justice. De quoi est-ce que tu as besoin ce matin? De quoi est-ce que tu as besoin ce matin? Dis-moi de ce dont tu as besoin. Tu as besoin de paix. Est-ce que quelqu'un a besoin de paix? Est-ce qu'on peut être honnête? On est en famille. Est-ce que quelqu'un a besoin de paix ce matin? Oui, on en a besoin. Est-ce que quelqu'un a besoin d'être guéri ce matin? Ouais. Oh, punaise. Est-ce que quelqu'un a besoin d'être réconcilié avec quelqu'un ce matin? N'ayez pas honte, hein? Oui, bien sûr. Est-ce que quelqu'un a besoin d'être reconnecté avec le corps parce que tu sens qu'une distance est en train de se mettre entre toi et le corps? Oui, tu peux lever la main. Tu as le droit d'être honnête. Jésus n'a jamais dit que tout serait beau. On n'est pas dans un monde de bisounours. De quoi tu as besoin? Est-ce que tu as besoin que ton mariage va mieux? Est-ce que tu as besoin que tes enfants aillent mieux? Est-ce que tu as besoin de voir tes enfants être sauvés? Est-ce que tu as besoin de voir ton voisin être sauvé? De quoi tu as besoin ce matin? Dis-moi, j'ai vu plein de mains se lever. Je vais vous dire, il n'y a qu'un seul remède, c'est Jésus et Jésus-Christ. Et si nous le croyons, il va faire des miracles. Ça, c'est l'évangile. Paul ne cherchait que cela au milieu. Il disait, je sais pas, hey, les gars, je suis allé à Éphèse, là j'ai trouvé un super truc dans l'église là-bas, c'est un truc qui marche, si on le fait, ça va bien marcher. Non, il y a un message pour les Éphésiens, un message pour les Colossiens, un message pour les Corinthiens, un message pour les Bondusiens, les Waterloosiens, c'est l'évangile. L'évangile de Jésus-Christ. Et toute la plénitude a été donnée. Alors, comment est-ce que cette plénitude, elle se déverse depuis la tête jusqu'au corps? Laissez-moi vous montrer ce que Paul a encore dit dans Colossiens. Il a dit ceci, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers, enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons parvenus tous à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Qu'est-ce qui se passe? En Jésus habite toute la plénitude. Et Jésus, il a dit, je vais donner une partie de ma plénitude à Bruno. Je vais donner une partie de ma plénitude à Aldora. Je vais donner une partie de ma plénitude à Simon. Une partie de ma plénitude à David, une partie de ma plénitude à Julien. Je vais donner une partie de la plénitude à un tel, à Maria, à J.R., à Alice. Bon, j'en connais plein, mais je vais arrêter là, parce que sinon, une heure, on est encore là. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, maintenant, ce que je t'ai donné, je te l'ai donné non pas pour toi, je te l'ai donné pour que tu viennes servir et construire mon corps avec ce que tu as. Écoute ceci. Tu es ici dans le corps parce que Dieu a mis au moins un don ou un talent en toi qui va être utile pour construire cette communauté et pour préparer cette communauté afin que quand Jésus convoquera Betsalel au ciel, il dira « Waouh, vous avez vraiment construit selon mon royaume. » Tu viens pas ici simplement faire ta guitare chaque dimanche matin. Tu viens servir quand Simon y conduit la louange, il nous entraîne à l'adoration éternelle. Quand Bruno vient vous visiter en tant que pasteur pour vous encourager, il est en train de vous dire « Allez, continuons la course ensemble !» Quand les évangélistes sortent ici pour aller annoncer l'évangile et qu'ils ramènent des gens, c'est juste pour édifier le corps. Vous savez ce que ça veut dire? Nous avons besoin les uns des autres. Bruno ne peut pas tout faire. Franchement, vous avez un super pasteur. Vous savez ça au moins. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, venez me voir à la fin du culte, j'ai des arguments. C'est un super pasteur. Mais c'est qu'un membre de cette église. Et il ne peut jamais faire tout ce que Jésus veut faire. Tout ne va pas passer par lui. Il ne supporterait pas. Il est fragile. Comme moi. Mais Dieu vous a donné des choses à vous qui, si on les met ensemble, la plénitude de la tête descend sur le corps. Et c'est exactement ce que Dieu veut faire. Tu as été joint pour ça. Mon troisième point aujourd'hui et mon dernier point, ce sera que l'Église est un indicateur de là où mène l'Évangile. L'Église est la conséquence de l'Évangile. L'Église est le lieu où se vit l'Évangile. Mais l'Église aussi est l'endroit... l'indicateur où mène l'Évangile. Colossiens chapitre 3 nous dit « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ apparaîtra, votre vie alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Qu'est-ce que Paul dit? Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, si tu es né de nouveau, aujourd'hui, tu vis maintenant à partir d'une puissance qui s'appelle la puissance de la résurrection. Et ça veut dire que si tu vis selon la présence et la puissance de la résurrection, tu vis selon le monde à venir. C'est la raison pour laquelle Paul disait qu'aujourd'hui, l'Église de Jésus-Christ, c'est l'Église et la seule institution divine sur terre qui vit selon les normes, non pas de ce monde, mais selon les normes et les valeurs du royaume à venir. Quand les gens nous voient venir, ils disent « ça va être comme ça au ciel ». Ça va être comme ça au ciel. On a un gars dans notre église qui vient, c'est un bénévole, il vient nous aider, on fait des travaux en ce moment. C'était un voisin d'un ami, pas chrétien, et il avait plein de temps à perdre. Il a dit, ouais, tiens, j'ai envie de donner un coup de main, je viens donner un coup de main. Il vient presque tous les jours avec notre équipe travailler. Et puis il m'a demandé un rendez-vous vendredi, il m'a dit, il faut que je te voie. Il m'a dit, Eddie, est-ce que je peux suivre Jésus? J'ai fait, mais bien sûr tu peux suivre Jésus. Il m'a dit, parce que quand j'ai vu ce que vous êtes, et qui vous êtes, et comment vous agissez les uns envers les autres, moi je veux ça. C'est ça que le monde a besoin de voir. C'est ça que le monde a besoin de voir. Et laissez-moi vous dire quelque chose, et c'est peut-être la partie la plus délicate de mon message ce matin. Mais l'Église, c'est un temple saint. Ça veut dire quoi, saint? Ça veut dire consacré à Dieu, mis à part pour Dieu. Le jour où tu as été sauvé, ce n'est pas pour vivre avec quelqu'un qui va être ton assurance tout risque et qui, quand tu as des problèmes, tu peux l'appeler, il va te répondre. Le jour où tu as été sauvé, tu ne t'appartiens plus. Le jour où tu as été sauvé, c'est pour appartenir à quelqu'un d'autre que toi-même. Ça veut dire que tout ce qui fait ta vie doit être vécu pour ce merveilleux roi qui un jour va paraître. Vous savez, le jour où je me suis fiancé avec Anne a été un jour qu'il a consacré. Avant de me connaître, elle pouvait choisir n'importe quel jeune homme. Elle aurait pu choisir n'importe quel homme de mon âge. Tant pis pour vous, c'est moi qui l'ai eu. Elle aurait pu choisir n'importe qui. Elle était libre, pas vrai? J'ai encore 5 minutes, Bruno. Je dépasse un peu, je suis désolé. Elle aurait pu choisir n'importe quel autre homme que moi. Vous êtes d'accord avec moi? Et si elle l'avait fait, est-ce qu'elle aurait commis une faute? Non. Mais le jour où nous nous sommes fiancés, que s'est-il passé? Elle a été consacrée à un seul homme. Laissez-moi vous dire ceci, et c'est très important ce que je vous dis. Ma femme n'a pas été consacrée à moi le jour de notre mariage. Elle l'a été le jour de nos fiançailles. Pourquoi je dis ça? Imaginez un instant que vous soyez fiancé avec quelqu'un et que cette personne dit « Oh, on n'est pas encore mariés, hein. Je vais en profiter pour aller voir un autre. » Est-ce que vous croyez que vous aurez envie de vous marier avec cette personne? Dites-moi. Mes amis, un jour, on va se marier avec Jésus, hein. Ça va être les noces de l'agneau, mais dès maintenant, vous êtes déjà fiancés. Vous n'avez plus le droit d'aller vers un autre. Aujourd'hui, vous êtes déjà consacrés à Dieu. Aujourd'hui, vous êtes déjà consacrés. Et si vous allez à d'autres amants, vous êtes un adultère. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus prépare son épouse. Ça veut dire que tout ce qui fait ta vie, ton mariage, l'éducation de tes enfants, ton rapport à l'argent, ton rapport à la sexualité, ton rapport au bien de ce monde, tout doit être régi, non pas selon les normes de ce monde, mais selon le royaume de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, il y a une honte sur l'Église. Cette honte, c'est qu'aujourd'hui, il y a autant de divorces dans l'Église qu'il y en a dans le monde. Il y a autant de séparations dans l'Église qu'il y en a dans le monde. Or, on l'a dit, la séparation, c'est toujours le fruit d'un péché. Quelqu'un a péché quelque part. Et lorsque le monde voit ça, quelle image il a de l'union qui est censée unir le fiancé qu'est Jésus avec sa fiancée qu'est l'Église. Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous révolutionner, mais la manière dont vous vivez votre mariage, c'est un témoignage pour ou contre ce mariage entre Christ et l'Église. Et j'en veux comme preuve que Paul a dit au mari, d'ailleurs c'est une piqûre de rappel pour nous les hommes, « Aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église, il s'est donné lui-même pour elle afin de la conduire à la sainteté, à la consécration. Après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour la faire paraître devant lui, cette église, glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. » Vous savez, l'église qui va paraître devant Dieu quand Jésus va venir, quand Jésus va paraître, l'église qui va aller à sa rencontre, c'est l'église qui va être glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Pas une église qui aura été rendue parfaite sur la terre, mais qui aura marché vers la perfection. Et c'est la raison pour laquelle la sanctification n'est pas une option dans le corps de Christ. Écoutez, je dois dire quelque chose de très délicat ici. Vous savez que notre sanctification, c'est une préparation à notre mariage avec Jésus. Ma fille va se marier cet été. J'ai une fille et 4 garçons. Vous imaginez que ma fille, c'est ma fille, quoi. Hein ? Quand son fiancé est venu me voir pour me demander la main de ma fille, je lui ai dit, écoute, il n'y a aucun problème, mais je vais te dire 2 choses. La première, c'est que si tu traites ma fille comme une princesse, si tu la rends heureuse, tu feras partie de mes héros, de la liste des héros de Hébreux 11. Mais si tu la maltraites, tu seras mon pire ennemi. Il m'a dit, message reçu. Mais c'est un gars formidable. Ma fille va épouser un homme formidable. Je suis tellement, tellement béni par Dieu qu'elle va épouser un homme d'une telle valeur. Mais vous savez, en ce moment, elle prépare son mariage. Si vous saviez l'excitation à la maison. On a droit à tout. Oh, je vais mettre ça sur les tables, et je vais mettre ceci, et la robe. Alors elle a essayé sa robe. Ma femme est allée avec sa robe. Papa, regarde, regarde, c'est quoi ta préférée? C'est quoi? Il y a une ébullition, il y a une joie, il y a une attente. Mais ça devrait être notre espérance en tant qu'église. On se prépare en tant qu'épouse à se marier avec Jésus. On devrait arrêter de se préoccuper des choses de ce monde et vivre pour les choses d'en haut. C'est ce que Paul dit. Arrêtez de vous préoccuper des choses d'en bas. Préparez-vous. Ce mariage pourrait bien avoir lieu beaucoup plus tôt que vous ne l'imaginez. Préparez-vous. Préparez-vous. Vous savez, c'était... Parce que je vais lui dire quelque chose que lui ne pourra jamais vous dire. Parce qu'il est votre pasteur et il doit vraiment prendre soin de vous. Moi, je viens. Si je ne vous plais pas, ce n'est pas grave. Vous aurez même supporté une fois par an, peut-être. C'est tout. Mais pas toutes les semaines. Mais vous savez, c'était tellement important cette préparation et cette sainteté pour Jésus, pour les apôtres et pour l'Église du premier siècle, que Paul va recommander que si quelqu'un persiste dans son péché, si quelqu'un vit délibérément, contrairement au plan de Dieu, Paul recommandait qu'une telle personne soit exclue temporairement de l'assemblée. Ça choque, hein ? Aujourd'hui, on dirait, Paul, t'es un de ces légalistes, mon gars. Et peut-être que Paul avait vu quelque chose de la sainteté que toi et moi, on n'avait pas vu. C'est facile de se comparer à Hitler, hein, on est tous des anges. Mais compare-toi à la sainteté de Dieu et tu vas voir que, comme Ésaïe, tu diras malheur à moi. Et vous savez pourquoi Paul recommandait que ces personnes soient exclues ? Pour 2 raisons. La première, c'était pour la personne elle-même, afin qu'elle se rende compte de ce qu'elle était en train de vivre quelque chose qui était contrairement et contraire à la volonté de Dieu, et qu'en faisant ça, elle s'excluait elle-même de ce mariage qui allait avoir lieu. Et c'était dans l'espérance qu'attristée par son état, elle se repente et soit à nouveau jointe au peuple de Dieu. Laissez-moi vous dire que toute discipline dans l'Église doit toujours avoir pour but la rédemption du pécheur, jamais sa condamnation. Ne jugeons pas ceux qui tombent, mais on devrait avoir une sainte crainte vis-à-vis de ces personnes. Et vous savez la raison, aujourd'hui, on ne le fait plus. On ne fait plus ça aujourd'hui. On ne dit plus aux gens, non, tu es indiscipliné. Alors les gens continuent à venir au culte, tout en vivant dans le péché, et leur conscience, elle s'éteint. Vous voyez pourquoi ils ne pouvaient pas vous dire ça ? Et pourquoi je dois vous le dire ? C'est l'évangile, mes frères et sœurs. La deuxième raison, c'est pour le corps lui-même. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui persiste dans son péché et qui fait quelque chose qui est contraire à la nature de Dieu, ce qui va se passer, c'est que ça va produire un état de séparation. N'oubliez pas, le péché sépare toujours. Il disperse. Et qu'est-ce qui se passe quand vous vous séparez ? Vous avez remarqué que quelqu'un qui vit dans le péché, et là où il y a la présence de Dieu, il finit par plus venir ? Parce qu'il ne supporte plus la présence de Dieu. Alors il se sépare. Et quand on commence à se séparer, eh bien, on commence à avoir une image qui se déforme de Dieu. On commence à avoir une image de l'Église qui se déforme. Tout d'un coup, mon péché devient la faute de l'Église, la faute du pasteur, la faute des autres. Et on ne se rend pas compte qu'en jetant la faute sur les autres, on est en train d'essayer de fuir une conscience qui brûle à l'intérieur de nous et qui est en train de nous dire « il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie ». Alors, laisse-moi te dire juste une chose, parce que je ne peux pas prêcher l'Évangile sans appeler à la repentance. Ce dont tu as le plus besoin, c'est ce que Jésus disait dans Apocalypse 2, verset 5, il disait « Souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi et pratique à nouveau tes premières œuvres. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire ? Il y a un Dieu présent ici ce matin. Et il n'est pas en train de te dire, toi qui vis dans le péché, je vais te jeter. Dieu n'est pas un Dieu qui jette. Dieu brûle de son cœur de sauver. Et peut-être aujourd'hui, tu es dans une situation de péché, tu sais que c'est contraire à Dieu, et ta conscience, elle s'éteint, ta conscience, elle brûle. Mais si tu es ici ce matin, il faut que tu entendes quelque chose. Dieu n'est pas là pour te dire, je vais t'exclure pour que tu sois perdu. Il est en train de te dire, je veux te préparer pour ce mariage. Et ce dont tu as le plus besoin, ce n'est pas de critiquer l'Église ou de critiquer ton pasteur ou de critiquer tel ou tel frère ou même de dire c'est de la faute des autres. Ce dont tu as le plus besoin, c'est de te repentir. Ce dont tu as le plus besoin, c'est de venir à Jésus et de dire « Seigneur, de la même manière que tu m'as sauvé la première fois, viens me sauver encore aujourd'hui. Viens me donner le courage de le faire. » Vous savez, je vais vous dire une chose, il n'y a rien qui me fait plus pleurer que de voir un frère qui s'est endurci dans le péché pendant des années et qui un jour revient à Jésus et qui dit « S'il vous plaît, mes frères, priez pour moi, je veux revenir à Jésus. » Quelle beauté, quelle grâce, quelle gloire. Je voudrais qu'aucun de vous ne se perde. C'est ce que Dieu dit, qu'aucun de vous se perde. Alors, l'Église de Jésus-Christ, c'est celle qui se prépare comme une épouse. C'est celle qui affectionne tellement la tête qu'elle se laisse gagner par lui. Elle a tellement en estime sa présence qu'elle vit pour les choses d'en haut. Elle est focalisée sur le jour où Jésus va paraître. Laissez-moi vous conduire un instant dans la prière, si tu permets, Bruno. Ce matin, on a vu que l'Église était la conséquence de l'Évangile. Ce matin, nous avons vu que l'Église était le lieu où se vit l'Évangile. Ce matin, on a vu aussi que l'Église, c'était l'indicateur de là où mène l'Évangile. Et ce matin, nous avons vu que cette Église, c'est le corps de Christ. C'est l'épouse qu'il se prépare. C'est cette épouse qu'il se prépare de manière à ce que le jour où il reviendra, nous serons avec lui pour l'éternité. Et en ce moment même, il est en train de préparer. Tout ce qu'il fait dans ta vie, c'est de te préparer avec tes frères pour ce jour glorieux. Si nous sommes ici ce matin, c'est juste pour nous entraîner, nous préparer, nous encourager, nous exhorter les uns les autres à pouvoir être ensemble préparés à sa rencontre. Et ce matin, je veux vous donner l'occasion, vous qui avez peut-être quitté le chemin, peut-être que ce matin tu as réalisé que tout en faisant partie de cette communauté, tout en ayant ton nom sur la liste des membres de l'association cultuelle, quelque chose en toi te garde à distance avec le corps. Peut-être quelque chose dans ton cœur. Tu as peut-être mal vécu quelque chose qui a été fait ici. Peut-être que le pasteur ou le responsable t'a dit quelque chose qui un jour t'a pas plu et du coup il y a comme une distance qui a été mise entre toi et lui. Écoute ceci, le plus important c'est pas toi ou lui, le plus important c'est Christ. Et cette séparation, Dieu veut la renverser. Il est venu pour renverser le mur de séparation. Ce matin, je veux que tu entendes un message de réconciliation. Je veux que tu entendes que l'Évangile est venu pour te réconcilier avec Dieu, te réconcilier avec la tête. Et en étant réconcilié avec la tête, tu vas être réconcilié avec tes frères et sœurs. Et il n'y a que lui qui peut faire ça. Vous avez une belle communauté, mes frères et sœurs. Quand je vois ces visages, même si vous êtes masqués, d'ailleurs vous avez tous une belle unité, vous avez tous le même masque presque, hein, c'est peut-être presque prophétique. Mais quand je vois cette communauté, je vois une belle communauté. Certes, je vois des membres en souffrance. Certes, je vois des membres en ce moment qui ont des décisions radicales à prendre. Oui, certes, je vois des membres qui aujourd'hui ont été détruits, abîmés parce que vous avez été victimes du péché, le vôtre et celui de quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, vous boitez. Mais sachez une chose, la volonté de Jésus, c'est de vous garder jusqu'au bout. Il ne vous lâchera pas. Il a dit, même si vous êtes infidèles, moi, je vais demeurer fidèle. Et sa fidélité pour toi ce matin, c'est de t'appeler à te repentir, de revenir pendant qu'il est encore temps. De revenir à ton premier amour. Alors si ce matin, tu sens que tu as besoin de te réconcilier avec Dieu ou avec le corps ou avec un frère ou une sœur, que tu as besoin de te réconcilier avec le chemin de la sainteté parce que dans ta propre vie, tu luttes Et mes frères et sœurs, s'il vous plaît, soyez vraiment vous-même. N'ayez pas peur. Vous n'êtes pas dans un endroit, il n'y a pas une caméra qui vous filme. On n'est pas en Chine ici. On va utiliser un dossier contre vous dans 3 minutes qu'on va envoyer auprès du KGB en disant « Regardez quelle personne c'est. Il n'y a pas de caméra ici. On est vraiment devant Dieu. Et on est devant un Dieu qui s'appelle Jésus-Christ et qui est venu exactement pour toi aujourd'hui. » Alors si vous êtes d'accord avec moi et que ce matin vous avez envie de répondre à cet appel de Jésus qui dit « Repends-toi, reviens et retrouve le chemin que tu as perdu. » Je vais t'inviter à te lever ce matin, là où tu es, là où tu es. Quel que soit ton défi, mon frère, ma sœur, sache que personne ne va te juger parce que tu te lèves ce matin. Au contraire, laisse-moi te dire qu'il y en a qui sont en train de faire la fête en ce moment. Ça s'appelle les anges. Ils se réjouissent. Le ciel tout entier se réjouit chaque fois que quelqu'un répond à cet appel de l'Évangile. Et peut-être tu n'as jamais répondu réellement à l'Évangile. Tu as peut-être entendu, tu as peut-être donné ton cœur à Jésus, mais jamais tu n'as abandonné ta vie au point où elle lui appartient. Laisse-moi te dire une chose, tout ce que nous gardons pour nous sera perdu sur cette terre. Mais tout ce que tu as donné à Jésus, tu le retrouveras pour l'éternité. Alors, je ne veux prêcher qu'un message ce matin, c'est l'Évangile. Parce que je sais qu'en prêchant l'Évangile, je vais faire du bien à cette communauté. Et c'est mon cœur, c'est de vous faire du bien. Parce que là où l'Évangile est prêché, le corps se construit, il s'édifie. Amen. Est-ce qu'on peut lever nos mains ensemble ? Seigneur, je veux te bénir pour toutes les personnes qui se sont levées ce matin, parce qu'elles ont besoin de toi. Jésus, nous ne pouvons rien faire, nous, si ce n'est que de nous aimer les uns les autres, de nous encourager. Seigneur, tu aimes cette communauté, tu as donné des dons et des talents. Il y a des frères ici, vous avez enterré votre talent, vous avez enterré votre talent à cause de l'amertume qu'il y avait dans votre cœur, parce que vous avez été blessé, vous n'avez pas compris quelque chose, et vous avez enterré ça, et aujourd'hui votre talent il est en train de pourrir sous un tas d'amertume. Mon frère, ma sœur, c'est le jour aujourd'hui où il faut laisser Jésus enlever cette amertume, c'est le jour où il faut laisser Jésus enlever ce tas de boue, pour que le don, le talent merveilleux, la grâce extraordinaire qu'il t'a donné pour édifier le corps qui est ici, puisse à nouveau ressusciter, à nouveau vivre. Ma prière, c'est que cette semaine, les responsables de cette église reçoivent des dizaines de coups de fil en disant « Qu'est-ce que je peux faire pour cette communauté ? Voilà mon don, voilà mon talent, voilà ce que je veux faire. Je veux vraiment mettre mon don au service de cette communauté. » Seigneur, je prie pour ceux qui sont debout ici, en particulier ceux qui ont été touchés par l'état de séparation du péché. Seigneur, je ne veux juger personne ce matin, parce que tu as dit, prends garde, toi qui es debout, de ne pas tomber. Seigneur, si aujourd'hui je me tiens devant toi et que je peux me tenir avec une bonne conscience, c'est uniquement par ta grâce. C'est aucunement par mes efforts, ni par mes mérites. Je sais que je tiens par ta grâce. Et mes frères et sœurs, ce matin, ont besoin de ta grâce pour se relever et pour tenir debout. Et ma prière pour chacun d'eux, c'est que tout ce qui va être confessé dans le secret de leur cœur, tout ce qui va être confessé à un frère ou une sœur, et je vous encourage à ne pas garder votre confession pour vous, mais à aller trouver une personne de confiance et lui dire « Je veux confesser mon péché devant toi. » Parce que Jacques 5,16 nous dit « Si nous confessons nos péchés les uns aux autres et nous prions les uns pour les autres, alors nous serons guéris. » C'est le mot « sozo » en grec qui veut dire « pardonner, délivrer, libérer. » Jésus veut ça pour toi. Alors, la démarche que tu fais là, je vais te demander de la faire suivre d'un acte concret, d'appeler un frère, une sœur de confiance et de lui dire « Je veux te confesser ça parce que je veux que Jésus me pardonne parce qu'à partir de maintenant, ça va être un jour nouveau pour moi. » Seigneur, tu vois ceux qui sont debout ce matin. Et je prie que, parce que je vois cette table avec ce pain et ce vin qui sont dessus, je prie que quand on va le prendre, ça a un sens rafraîchi dans nos cœurs. Que pendant qu'on va prendre le pain et le vin, il y a quelque chose qui va se passer là. Tu es là au milieu de nous. Et ma prière, Seigneur, c'est que tous ceux qui se sont levés trouvent maintenant ta grâce. Et trouvent la grâce des frères et sœurs. Père, je te prie pour cela. Au nom de Jésus-Christ. Amen.